France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Masculin, masculinisme, masculinité, ces termes fleurissent dans le débat public, dans la mini-série Adolescence par exemple, diffusée sur Netflix, où il est question d'endoctrinement masculinisme lorsqu'un adolescent accusé d'avoir assassiné une camarade de classe se fait prendre. Dans la politique américaine également et dans l'idéologie trumpiste, où la masculinité est érigée en vertu et le masculinisme en lutte. Certains expliquent même que les droits de douane élevés favoriseraient la masculinité. Dans les discussions françaises aussi, où certains redoutent l'impact des avancées féministes et cherchent étonnamment à en construire un contre-discours. Alors ce soir, une question simple et complexe à la fois, qu'est-ce qu'être un garçon? Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui? Quelles sont les différences entre masculin, masculinité et masculinisme? Quelles figures les incarnent? Et pour nous éclairer, Laura Verker, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne Université. Vous êtes en train de coécrire un ouvrage sur les masculinités avec une chercheuse et collègue Mélanie Gourarier. Et avec nous, en présence ce soir comme chaque mercredi, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et cher Julien, je prends la une de l'hebdomadaire Le 1 et je trouve une question, qu'est-ce qu'être un homme? Alors que trouve-t-on dans ces pages, dans cette page même, cette semaine?
Eh bien vous l'avez dit, c'est une vaste question et celle est d'autant plus, elle est d'autant plus complexe aujourd'hui après MeToo qui a été un révélateur de beaucoup de changements de société et qui a conduit à des hommes à se remettre en cause. Quels sont les modèles masculins que offrent nos sociétés aujourd'hui? Eh bien, on l'explore à travers plusieurs champs qui vont de la sexualité à la paternité et même au rire, parce que le genre, le rire aussi a un genre.
Alors écoutons un homme qui connaît les masculinités selon lui-même. Il s'appelle Mark Zuckerberg. Il est interrogé dans le podcast de Joe Rogan.
Je pense que la culture d'entreprise aujourd'hui est plutôt émasculée. Et vous savez, j'ai grandi entouré de trois sœurs sans frère. J'ai trois filles et pas de fils. Donc je suis environné par des filles et des femmes depuis toujours. Mais je pense qu'il y a quelque chose de positif dans l'énergie masculine. Et assurément, notre société en est bien pourvue. Cependant, je crois que la culture d'entreprise essaye de l'éviter alors que toutes ces énergies sont bonnes. Et avoir une culture d'entreprise qui célèbre un peu plus l'agression mérite d'exister. En tout cas, cette énergie a été positive pour moi.
Un extrait, je le redis, de Joe Rogan Experience, l'un des podcasts les plus écoutés, les plus célèbres aux États-Unis. Laura Verker, comment est-ce que vous analysez avec votre prise, comment est-ce que vous interprétez ce type de discours qui rencontre aux États-Unis dans le champ conservateur un succès croissant?
Là il y a toute une série de personnalités politiques qui fleurissent avec comme manière d'incarner le politique, en fait, un renouveau de la mise en scène de la masculinité qui devient vraiment une manière de se construire politiquement et pas n'importe quelle virilité, hein, c'est une virilité physique qui met en scène la force, le pouvoir, l'oppression, le retour de valeurs traditionnelles, etc. Après là, ce qui peut surprendre, c'est on se dit Mark Zuckerberg qui était censé être dans le monde de la tech, incarnant la nouveauté avec tout un tas de programmes promouvant l'égalité, la diversité dans les entreprises. Et là, il y a une rencontre qui paraît un peu fortuite entre les masculinités trumpistes dites virilistes et puis celles qu'on pensait plus égalitaires ou en faveur de l'égalité, et avec un retour de la valorisation de la virilité aussi dans les entreprises et les mondes de la tech.
Qu'est-ce que viennent chercher, selon vous, ces responsables politiques lorsqu'il mobilise ces notions de masculinisme et de masculinité? On reviendra sur les définitions, Laura Verker.
Qu'est-ce qu'ils viennent
chercher en creux? Qu'est-ce qu'ils viennent tenter d'attirer, de gratter peut-être aussi?
Ils viennent polariser, hein. Enfin, en fait, ils viennent polariser l'espace public, ils viennent polariser les questions, les questions, et notamment les questions sociales, les questions de genre. Enfin, bon, les masculinités conservatrices, c'est des masculinités très antiféministes, elles viennent en réaction, en fait, à la circulation, la vulgarisation, on va dire, des idées féministes. Donc, en fait, ça vient instaurer un combat, une manière virile, en fait, de penser les rapports sociaux de genre.
Une question de Julien Bisson.
Oui, ce retour de l'idéal viril, est-ce qu'il transparaît aussi en creux dans la volonté de Trump de hausser les droits de douane, de faire revenir des emplois industriels? Il y a aussi cette idée-là, dans cette idée de l'homme qui va travailler à l'usine finalement?
Oui, c'est le retour, mais en fait je pense que c'est toujours là, mais juste d'un coup ça s'exprime, c'est beaucoup plus visible, on en parle beaucoup plus dans les médias, donc en fait ça donne un effet de nouveauté, mais en fait c'est toujours là, juste en fait ça prend une place plus importante et ça prend une attention aussi. La preuve, on en parle partout dans les médias, il y a des séries, etc., ça prend l'attention, mais du coup sur un mode viril, donc par la force physique aussi, alors que avant on pouvait plutôt valoriser la force mentale, le contrôle, la maîtrise, donc là dans d'autres types de masculinité, mais là on revient sur une manière de s'imposer physiquement par la force, par le travail, par les rôles traditionnels aussi dans la famille, enfin...
Alors on a besoin de vos lumières pour entamer cette discussion, on a besoin de vos lumières en matière de définition. Quelle différence y a-t-il entre la masculinité et le masculinisme? Commençons par le début, c'est-à-dire la masculinité.
Oui. Il y a beaucoup de confusion et d'ailleurs il y a aussi une confusion qui monte de plus en plus, c'est-à-dire que le mot masculinisme, il vient un peu remplacer le mot virilité.
On y reviendra absolument.
Il y a les masculinistes, il y a les non-masculinistes. En fait, ça remplace, il y a les virils, il y a les non-virils.
Alors, la masculinité.
La masculinité, d'abord. En fait, la masculinité, c'est... Donc déjà, c'est au pluriel, hein. C'est les masculinités. Et en fait, en tout cas, en sciences humaines et sociales, c'est une manière de comprendre la façon dont les masculinités, elles se construisent dans leur pluralité. C'est un concept relationnel aussi, comment ça se construit en relation avec les femmes, avec le féminin, et comment il y a aussi une pluralité de masculinités qui peuvent se construire les unes par rapport aux autres en intégrant, on dit, un regard intersectionnel, c'est-à-dire... comment ça se construit aussi par rapport aux questions de classe, aux questions raciales, etc. Enfin, on le constate, il y a plusieurs manières d'être homme. Et donc ça, c'est traversé aussi par d'autres logiques sociales qui sont peuvent être de la classe raciale, le handicap aussi, la sexualité. Enfin voilà, c'est penser la pluralité des hommes comme on pense la pluralité des femmes.
Et le masculinisme, par conséquent.
Et le masculinisme, en revanche, cette fois-ci, c'est presque aussi long que le féminisme. C'est une forme d'antiféminisme. Une forme d'antiféministe conservatrice, donc avec cette idée que le féminisme serait allé trop loin et que maintenant il y aurait un renversement des rapports de pouvoir avec les hommes qui seraient désormais dominés par les femmes. Et donc il faudrait retrouver sa place dans la société en luttant justement contre les idées féministes. Donc c'est vraiment des hommes qui se placent contre les féministes et l'avancée des droits des femmes. Donc il y a de la misogynie contre les femmes, mais c'est aussi plus précis. Donc c'est pour ça que Trump, c'est quand même une réaction, il appelle à lutter contre les woke, contre les mouvements féministes, pro-genre, etc. Donc c'est une lutte sociale du point de vue de l'avancée des droits sociaux.
Julien Bisson.
Et dans ce corpus intellectuel, la virilité, alors expliquez-nous, qu'est-ce que cela recouvre?
Oui. Alors la virilité, justement là pour le coup ça se conjugue au singulier, en général ça renvoie à des grandes valeurs, la force, le courage, la maîtrise, la tempérance, etc. Alors ça peut prendre des formes différentes en fonction des contextes, parce qu'on associe la force, ça peut être la force physique, ça peut être la force mentale, enfin voilà, ça peut prendre des formes un peu différentes, mais ça se conjugue au singulier et c'est toujours associé à un rapport de domination, à l'idée de garder une position de force dans l'espace social, alors que les masculinités c'est pas forcément dominant, enfin c'est comment se construit le genre.
J'en reviens au terme de masculinité pour ajouter du concept à un autre concept. Pourquoi parle-t-on parfois, souvent même dans la presse, un peu partout aussi dans ce qu'on peut lire ou entendre, de masculinité hégémonique? Qu'est-ce que ce prisme-là permet de comprendre sur le corps social?
Ouais, alors le concept de masculinité hégémonique, c'est vrai qu'il est très important en sciences humaines et sociales quand on s'intéresse à la masculinité. Il vient de Rowan Connell. C'est l'idée de penser les modèles qui sont dominants dans l'espace social. Mais dominant, ça veut pas dire en fait une masculinité hégémonique. Elle peut être en adéquation, en tout cas. Aller dans le sens des intérêts, par exemple des femmes, ça peut être des modèles plus égalitaires, etc. Mais hégémonique, ça veut dire qui fait consensus, qui est légitime à un moment donné, dont on parle dans les médias, c'est la norme, c'est ce qui va s'imposer comme la norme à suivre. Donc c'est pas la plus répandue, au contraire, c'est souvent une minorité, c'est un modèle minoritaire, mais qui aura vocation à se répandre comme modèle à suivre.
Julien Bisson.
Et pour reprendre justement la typologie de Rowan Connell, est-ce qu'il y a d'autres formes de masculinité qui peuvent se détacher de cette masculinité hégémonique?
Oui, bah alors après on va dire qu'elle est masculinité subalterne, donc ça va être des modèles en fait qui correspondent pas totalement au modèle hégémonique, qui s'y conforment pas totalement, mais qui restent solidaires et qui vont quand même en tirer des bénéfices indirectement. Et puis après on parle de masculinité subalterne, donc là c'est les masculinités, en fait c'est une lecture très intersectionnelle de la question des masculinités, ça va être les masculinités racisées, les masculinités gays, enfin qui vont pas correspondre à la norme en tout point et qui du coup dans les hiérarchies des masculinités vont pas tirer tous les bénéfices de la masculinité hégémonique.
Je souhaiterais vous faire entendre une archive qui date de 1983, un reportage consacré au problème des couples séparés et aux hommes seuls qui doivent s'occuper de leurs enfants. On en tirera avec vous, grâce à vous, quelques conclusions.
C'est quelle atmosphère au palais de justice
C'est plutôt de la justice à la chaîne. Vous savez, les femmes arrivent là-dedans en terrain conquis, elles ont des grands sourires jusqu'aux oreilles, et vous savez que les carottes sont cuites à l'avance. Il n'y a pas du tout d'égalité parentale. Le père est uniquement considéré comme un pourvoyeur de fonds, banque à payer, et puis après on le met à la rue, on prend les enfants, même des fois certains pères n'en voient plus les enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même les juges aux affaires matrimoniales, sans avoir vu les enfants des fois, ni le père, se permettent de supprimer même ce qu'on appelle le droit de visite. Vous pouvez retrouver à ne plus voir ou revoir votre enfant à partir d'une audience dite de conciliation qui dure des fois pas plus de 5 minutes.
Bon, vous avez combien d'enfants?
Moi j'en ai qu'un, heureusement il a 16 ans maintenant. Et disons que je vais arriver au bout du rouleau quand il aura la majorité, mais je plains beaucoup les pères qui ont des enfants en bas âge et qui se retrouvent victimes du divorce.
Comment utiliser, Laura Werker, ce concept-là, celui de masculinisme, pour comprendre ce que l'on vient d'entendre?
Oui, bah là, je pense que... Alors, je ne sais pas s'il faisait partie d'une association de défense des droits des pères, SOS Papa, etc. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie typiquement des groupes masculinistes historiques. Donc là, on n'est vraiment pas sur n'importe quel homme. On est sur des hommes qui militent, qui se regroupent en association pour faire valoir leurs droits. Alors, bien évidemment, c'est toujours ambivalent parce qu'en fait, ils vont utiliser des arguments féministes en disant « il faut plus d'égalité, nous aussi, on veut partager les tâches, etc. » Sauf qu'en fait, on se rend compte que souvent, c'est des revendications qui arrivent au moment où on se sépare et c'était pas forcément des pères qui étaient particulièrement impliqués dans les tâches domestiques. Et là, c'est plutôt en fait une guéguerre de couple pour... voilà, l'enjeu, c'est de reprendre le pouvoir dans le couple par rapport à la séparation. Et juste sur ce sujet des pères qui demandent... Donc, c'est un mouvement, hein, les pères qui demandent la garde alternée au moment de la séparation. En fait, en réalité, maintenant, la majorité des pères qui le demandent, ils l'ont. Et c'est une extrême minorité, en fait, des pères qui le demandent et qui ne l'ont pas. Et dans ces cas-là, il y a aussi souvent des cas de violence conjugale, d'inceste, etc.
Mais c'est pour ça que c'est une archive de 1983 qui nous permet de prendre un peu de recul et de perspective. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'un père qui demande la garde alternée, ça fait partie d'un ensemble de discours masculinistes? Quel lien vous faites entre les deux? Après tout, on pourrait se dire, c'est peut-être un père qui souhaiterait voir un peu plus, un peu mieux aussi ses enfants.
Oui, bah tant mieux d'ailleurs.
Hein, tant mieux.
L'objectif, c'est bien évidemment de répartir les tâches domestiques, de soins, etc. Mais là, typiquement, en fait, si on prend cet exemple-là, et c'est ce que je disais avec les masculinistes, c'est que les masculinistes, ils prêtent très attention aux arguments féministes. Ils se regardent, ils se comparent mutuellement, donc ils connaissent les arguments féministes. Et l'argument, en fait, de déconstruire le genre, de dire oui, nous aussi, on peut prendre en charge les charges domestiques, etc. Enfin, c'est pas que des tâches qui sont dévouées aux femmes. En fait, c'est un argument insidieux aussi pour prendre, en tout cas, dans ce cadre figure-là, de reprendre le pouvoir, l'ascension aussi sur des décisions judiciaires qu'ils considèrent injustes, mais qui, en réalité, enfin, en tout cas, quand on regarde les profils de ces hommes-là, souvent, ce n'était pas des hommes qui étaient impliqués dans les tâches domestiques et parentales. Voilà, l'enjeu, c'est plutôt un rapport de pouvoir et de force avec la conjointe dans le cadre d'une séparation.
Julien Bisson.
L'un de vos objets d'étude, c'est justement les nouveaux pères. Alors, ce n'est plus 1983, c'est plutôt aujourd'hui. Ces nouveaux pères, on pourrait les voir comme des formes nouvelles de masculinité. Et cette émergence, pour vous, est-elle une bonne nouvelle?
Une bonne nouvelle, bah en tout cas, alors moi je questionnerais plus la question de l'émergence, en tout cas de considérer que les hommes, les pères veulent davantage s'investir dans les tâches de soins, dans les tâches domestiques. Alors ça c'est moins le cas. Les tâches de soins, oui, toutes les tâches qui impliquent un rapport avec l'enfant, en tout cas soit de divertissement ou en tout cas amené à l'école, etc. Donc là il y a un changement, en tout cas si on parle des tâches les moins agréables à prendre en charge. charge les tâches domestiques ou qui prend rendez-vous chez le médecin, qui change la taille des body ou qui nettoie les toilettes. Là, pour le coup, il n'y a pas une différence encore très importante. Mais bien évidemment, c'est souhaitable.
C'est bien de le dire et de commencer par là, ouais. Parce que je sais que vous êtes plus critique à l'avenir et sur les propos et les questions qui vont suivre. Je voudrais vous faire entendre un influenceur créateur de contenu, il s'appelle Ben Nevers, et il présente un peu la façon dont son enfant est né et la façon dont il a vécu lui-même l'accouchement de sa conjointe.
Les amis, bienvenue dans cette vidéo de rentrée, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Ça fait 2 mois maintenant que je suis papa. Vous m'avez posé des questions hyper intéressantes sur la nouvelle vie de papa, comment s'est passé l'accouchement, comment ça se passe dans mon couple, est-ce que je me sens père, etc. Je vais répondre à quelques questions et je vais ouvrir ce colis. Je l'ai reçu là, juste avant de tourner, et ça fait 2 semaines que je l'attends. On va l'ouvrir ensemble. Et donc là, on arrive avec la sage-femme dans une salle, et là arrive le moment fatidique où elle me tend le bébé. Et moi, je n'ai jamais porté de bébé de ma life. C'est hyper naturel parce qu'il n'y a pas le choix. Donc très vite, je prends le bébé dans mes bras, je le regarde, il fait que des bruits chelous et je me rends compte que je pense que les 20 prochaines années, voire jusqu'à ma mort, je vais être inquiet pour mon enfant. J'ai quand même réussi à vivre un moment extraordinaire et assez unique, et du coup assez rare que le daron puisse vivre ce truc-là, c'est que j'ai pu faire 1h15 de peau à peau avec mon bébé. J'avoue que c'était un moment assez extraordinaire. Mais moins extraordinaire que cette figurine, pas du tout.
Laura Werker, qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous analysez cet investissement parental ?
Alors là, je ne vais pas analyser l'investissement parental, je vais analyser la mise en scène de l'investissement parental, qui est un peu différente. Mais alors effectivement, c'est dans mes recherches, c'est... Le terrain que j'ai investigué, c'est-à-dire les hommes qui mettent en scène leur parentalité. Tant mieux, son récit est joyeux, donc c'est souvent ça, hein, c'est le récit joyeux de pères qui passent des bons moments avec leurs enfants. Bien évidemment, la parentalité, c'est des bons moments, mais c'est aussi des moments moins agréables.
Bon, mais a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, un père qui s'investit, qui le fait d'une manière positive, qui le présente aussi. On peut se dire que ça peut permettre à d'autres personnes de changer, de se transformer, de s'impliquer un peu plus aussi.
Encore une fois, c'est une bonne nouvelle, mais moi ce que je vois aussi, c'est que donc là peut-être, enfin je connais pas exactement cet influenceur là, mais mettre en scène sa paternité, souvent c'est aussi l'occasion, en tout cas moi c'est ce que j'ai observé, c'est d'en tirer des bénéfices symboliques et matériels. Être influenceur, c'est aussi du placement de produits. Souvent en plus c'est cumulatif, donc ils écrivent aussi des ouvrages, ils sont présents. Donc en fait, s'impliquer dans la parentalité à condition aussi d'en tirer des rétributions économiques et aussi symbolique, parce que bien évidemment, un père, dès qu'il s'investit et qu'il met en scène sa paternité, il en tire très rapidement des bénéfices symboliques. Être nouveau, c'est toujours positif, hein. On n'a jamais entendu dire qu'être nouveau, c'est négatif dans l'environnement dans lequel on vit, pour la progrès, la modernité, etc. Donc en fait, et ça s'accompagne rarement, malheureusement aussi, d'une réflexion plus globale sur, mince, en fait, pourquoi on a dévalorisé pendant tant d'années le travail de care, de soins, le travail domestique, etc. Donc indirectement, en fait, de ce point de vue-là, du point de vue de la mise en scène, les femmes n'en tirent pas des bénéfices directement.
Julien Bisson.
Alors qu'est-ce que cet exemple des nouveaux pères nous dit finalement des mutations de la masculinité contemporaine ? Est-ce que ces mutations vont forcément vers davantage d'égalité ? Ou est-ce qu'il y a des formes nouvelles d'investir sa masculinité ?
Bon, alors déjà, nouveau, c'est toujours la question. Nouveau par rapport à qui, à quand, à quoi, parce qu'en fait, là, dans une temporalité très longue, les historiens vont dire en fait des modèles de pères doux investis dans les tâches domestiques, etc. Il y en avait beaucoup au Moyen-Âge, par exemple. Sauf qu'après, il y a eu la figure du père autoritaire, bourgeois, gagne-pain, qui ramène l'argent à la maison avec une séparation très forte entre la sphère familiale et la sphère professionnelle. Et souvent, quand on dit nouveau, en fait, on dit nouveau par rapport à ça. Mais voilà, on est sur une mémoire courte, en fait, aussi. Je me méfie aussi de l'effet d'affichage, c'est-à-dire qu'il y a une nouveauté, en tout cas, dans les aspirations. Ça, c'est fort, dans les aspirations des hommes à s'investir. Il y a un changement aussi dans l'expression de sa masculinité du point de vue de l'émotion, d'assumer la proximité physique aussi avec l'enfant, etc.
Et à quel point, pardonnez-moi, je vous coupe, ouais. À quel point ça se transforme profondément ? Est-ce que c'est marginal ? Est-ce que c'est une classe spécifique ? À quel point, voilà, ces transformations travaillent, là encore, la société ?
Transformation, c'est un grand mot, mais en tout cas, ce changement d'aspiration et la façon de se représenter, c'est global, c'est quelque chose qui traverse, on va dire, toutes les classes sociales aussi. En revanche, du point de vue des pratiques, enfin, il y a des résistances très fortes, et ça, pour le coup, on en passe. C'est pour ça que parfois l'effet de nouveauté, c'est bien, on est optimiste, il le faut, mais il ne faut pas que ça vienne recouvrir ou empêcher de parler en même temps quand même des résistances qui cohabitent. Et vraiment, du point de vue de la répartition des tâches qui sont pas agréables, et donc là, pas des tâches de soins de l'enfant, mais des tâches domestiques, il y a des résistances. Et alors après, du point de vue des classes sociales, si là, il y a des inégalités quand même, les classes sociales plus populaires, il y a des inégalités plus importantes, mais en fait, tout simplement parce que les conditions matérielles sont pas les mêmes, on peut pas avoir recourir à des personnes qui nous aident, des personnes de soins, des personnes, le ménage, il y a aussi souvent des rapports au travail, les 3-8, etc., des temporalités au travail qui font que, en fait, on peut moins s'investir. Et il y a Bell Hooks, d'ailleurs, dedans, c'est ce qu'elle dit dans les parentalités, c'est aussi des enjeux. En fait, on a des modèles, mais il faut aussi penser que les modèles, ils sont plus ou moins réalisables en fonction des conditions matérielles dans lesquelles on vit.
Que penser du discours général que l'on entend parfois et qui explique que la masculinité, cette fois-ci exprimée au singulier, d'ailleurs, la masculinité est une chose menacée par l'époque?
Quelle masculinité?
La masculinité au sens sans doute traditionnel du terme, sans doute au sens du pater familias et du domaine le plus classique.
Oui, bah en fait c'est intéressant parce qu'on est dans un contexte où il y a un peu deux choix pour les hommes, mais toujours par rapport à la question du changement, il se pose chose que les femmes, on les pense moins comme ça, on se dit moins est-ce qu'elles changent, est-ce qu'elles changent pas, c'est une obsession quand on pense les masculinités. Alors soit on est en résistance au changement, on subit le changement, donc on résiste, ça va être les masculinités conservatrices, ou alors il faut adhérer au changement, il faut pas juste y adhérer, faut en incarner vraiment faut être à l'avant-garde et comme ça en fait on reste dans une position aussi valorisée. Donc je ne sais pas si c'est la question en tant que telle, je pense que c'est plus une question pour préserver sa position qu'une question qui a du sens sociologiquement, par exemple.
Une autre archive, cette fois-ci, elle date de 1977, on va entendre des enfants qui réfléchissent à ce que sont les inégalités entre les femmes et les hommes.
Je me demande pourquoi les hommes se croient supérieurs aux femmes.
Est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes ou est-ce le contraire?
Des fois, ça se vaut les deux. Les deux, ils sont aussi intelligents que l'un que l'autre.
Quelqu'un pense différemment, Elisabeth?
Moi, je trouve que les femmes et les hommes ont pas beaucoup la même intelligence, seulement les hommes ont plus de chance parce qu'ils ont beaucoup plus de droits que les femmes.
C'est vrai? Dans quel domaine?
Par exemple, je sais pas, il y a 20 ans en arrière, les femmes n'avaient presque pas le droit de skier. C'est plutôt réservé pour les hommes, quoi. Puis elles n'avaient aussi presque pas le droit de voter.
Mais ça a changé.
Oui, ça a changé, heureusement.
Est-ce qu'il reste des choses que les femmes ne peuvent pas faire et que les hommes peuvent?
Je crois plus.
Elles peuvent pas faire curé, les femmes.
Pas le droit d'être curé, pas le droit de skier, pas le droit de voter. Une question de Julien Bisson.
Oui, pour revenir, alors c'est 77, pour revenir à aujourd'hui. Il y a eu un rapport en 2025 sur l'état du sexisme en France, demandé par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a quelques chiffres marquants dans ce rapport, et celui-ci notamment. 94% des jeunes femmes de 15 à 24 ans estiment qu'il est plus difficile d'être une femme aujourd'hui. 67% des jeunes hommes pensent aussi que c'est plus difficile d'être une femme. En revanche, 13% pensent que c'est eux qui ont la vie la plus difficile. Qu'est-ce qui vous fait réagir? C'est plutôt les 67% des garçons qui sont d'accord pour dire que c'est encore plus difficile pour les femmes, ou les 13% qui pensent que c'est pour les garçons que c'est plus difficile, pour lequel il y a vraiment une dégradation de l'état des hommes?
Oui, puis il y a eu aussi une étude qui montrait que... En tout cas, il y a des écarts. Enfin, au sein des générations, la jeune génération, c'est là où il y a le plus d'écarts entre les jeunes filles et les jeunes garçons, entre des femmes en fait qui adhèrent de plus en plus aux idées progressistes et les jeunes garçons. On parlait de la série Adolescence au début, qui sont de plus en plus en résistance. Bah après, bon bah voilà, c'est un système mécanique, c'est-à-dire plus on avance sur un versant, plus il y a des résistances qui s'accompagnent. Alors on peut avoir le regard optimiste de dire tant mieux, ça veut dire que ça avance, et puis aussi pessimiste en disant ça avance, mais il y a aussi des pertes qui peuvent arriver, des pertes de droits, etc. Alors après, ça rappelle aussi la question du discours de la crise de la masculinité, hein. Les hommes sont en crise par rapport à l'évolution, l'avancée des droits des femmes, mais c'est pareil, hein. C'est un discours qui est pas nouveau, qui est récurrent dans l'histoire, qui revient à chaque fois qu'il y a des avancées sociales. Je dis pas que les hommes se sentent, enfin que c'est pas juste un discours, une position et qui peuvent se sentir comme ça. En revanche, si on fait un état des lieux objectif de qui en est où dans tous les secteurs de la vie sociale, bon voilà, les hommes ne perdent pas leur position hégémonique, en tout cas d'un point de vue structurel.
Je reviens un instant, Laura Verker, sur ce concept de masculinisme dont on a beaucoup parlé dans cette discussion à propos des États-Unis, à propos de figures états-uniennes. Qu'en est-il en France? Comment se structure-t-il ce masculinisme à travers des groupes? Comment ces mobilisations, si elles existent sous la forme de mobilisation politique, s'organisent-elles très concrètement?
Alors effectivement, y a une histoire plus longue, plus forte aux États-Unis, au Québec aussi, avec la tuerie dans l'école de Polytechnique. Alors en France, du coup, ça arrive après, enfin ça infuse. Aujourd'hui, ça prend des formes multiples avec les réseaux sociaux numériques. Donc on peut voir un continuum. Enfin, ces idées se diffusent, mais sous plein de formes différentes. Il y a plein de communautés, surtout sur les. Donc il y a les influenceurs YouTube, mais il va y avoir les forums aussi, les forums de jeux vidéo. Alors il va y avoir les incels, ceux qui se disent célibataires involontaires, mais il y a aussi tous les influenceurs bien-être, santé, coach sportif, où en fait il y a un substrat masculiniste, enfin voilà, un discours autour de la force physique des hommes qu'il faut retrouver, etc. Donc en fait le changement là, enfin c'est avec les réseaux sociaux et les algorithmes aussi qui favorisent la visibilité de ce type d'idées et de discours, c'est que ça se diffuse dans plusieurs espaces, ça prend plein de formes, mais en fait c'est lié plein de communautés, parfois c'est lié à la question de la sexualité. Parfois, c'est lié avec du bien-être. Il y a les survivalistes aussi, l'appel à la fin du monde. Donc voilà, ça se diffuse un peu partout sous des formes très différentes. Je pense que c'est ça la spécificité aujourd'hui.
Un monde absolument divers. Merci beaucoup, Laura Verker, d'être venue nous éclairer sur ces notions de masculinité, de masculinisme qui traversent le débat public en France et bien ailleurs, notamment aux États-Unis. Julien Bisson, rappelez-nous ce que l'on trouve dans l'hebdomadaire Le 1 cette semaine. Qu'est-ce qu'être un homme? C'est la question que vous posez.
Qu'est-ce qu'être un homme avec l'historien Yvan Jablonka, la philosophe Olivia Gazellet, le sociologue Florian Voros et bien d'autres encore.
Merci à vous deux d'être venus ce soir dans Question du soir.